Tout d'abord, je tenais à remercier l'association Survie et François-Xavier Verschave en particulier, parce que c'est vrai que c'est grâce à lui que j'ai commencé à décrypter le dossier de mon mari. Et c'est vrai que j'étais vraiment pas préparée à ce genre de choses, parce que j'ai toujours été élevée par mes parents dans le respect des institutions et de notre pays. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, où on me reproche quelquefois de déstabiliser les relations entre la France et Djibouti, j'ai un peu l'impression qu'on inverse les responsabilités, sachant que mon mari a été assassiné, et vraisemblablement parce que la France lui avait demandé d'intervenir, sans doute, pour la succession de M. Aptidon, à l'époque président de la République à Djibouti. Alors, moi, c'est vrai que j'étais magistrat avec mon mari, nous nous sommes rencontrés en Ardèche, et nous n'avons jamais connu les dysfonctionnements que moi j'ai connus dans ce dossier-là. Et je disais tout à l'heure à Claude que on m'aurait raconté l'affaire de mon mari il y a 10 ans. Je ne sais pas si j'y aurais cru. Parce que je crois que non seulement on a essayé de l'atteindre lui, pour essayer de chercher un mobile à son suicide, mais on a également cherché à me nuire à moi, évidemment, puisque j'essayais de trouver la vérité. Et par là même, on a également nui à mes enfants, parce que on les empêche de connaître la personnalité réelle de leur père. On a essayé de le détruire à leurs yeux. Et c'est quelque chose que je ne pardonnerai jamais aux gens qui l'ont fait. Je crois qu'un crime, quand il est réprimé, quand il y a une condamnation qui passe, je pense que les victimes peuvent aller au-delà et peuvent continuer, mais tant que cette étape-là n'est pas franchie, je ne pense pas que ce soit possible. Alors les dysfonctionnements, eh bien écoutez, d'abord ils se sont produits tout de suite à Djibouti, puisque donc mon mari avait disparu, j'ai passé une nuit à l'attendre avec quelqu'un qui était venu vers 3h du matin, parce qu'on ne l'avait pas trouvé avant, qui était le plus proche collaborateur de mon mari. Et donc cette nuit à attendre, quelqu'un qui ne rentre pas et dont on ne sait pas pourquoi il ne revient pas, c'était très pénible évidemment, vous l'imaginez. Le matin, tout le monde est parti parce que je voulais que les enfants partent à l'école et je ne voulais pas leur parler de ce qui s'était passé. Je ne savais rien. Et puis on est venu m'annoncer la mort de mon mari. C'est le consul de France qui est arrivé en milieu de matinée pour me dire que mon mari s'était immolé par le feu dans le désert du Goubette. Et après m'avoir dit ça, il est parti. Voilà. Je venais de découvrir la sacoche de mon mari qui était à sa place et dans laquelle il y avait une somme importante d'argent djiboutien. Je n'ai rien compris. Il y avait également une lettre à mon intention, une enveloppe, et dedans des documents, deux lettres selon lesquelles il s'était fait consentir à découvert bancaire la veille, que l'argent n'avait pas été dépensé. Il ne me dit pas qu'il n'a pas dépensé l'argent, il me dit que l'argent n'a pas été dépensé, et il me demande de couvrir le découvert. Et avec ce document, il y avait également l'état de ses achats de médailles, parce que mon mari était collectionneur de médailles militaires, c'était un officier de réserve. Et donc voilà, et c'est vrai que quand j'ai découvert tout ça, avant que le consul n'arrive, c'est vrai que j'ai bien compris que s'était passé quelque chose. Et quand il est arrivé et qu'il m'a dit que mon mari s'était suicidé, en lien avec ce que je venais de découvrir, c'est vrai que je comprenais rien et que la femme de ménage m'a entendu, effectivement, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je n'ai pas discuté un seul instant ce qu'on m'a asséné ce jour-là, hein, absolument pas. Et l'après-midi même, donc le plus proche collaborateur de mon mari, qui avait passé une partie de la nuit avec moi, est venu me demander de chercher un document pour la France. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on n'est pas dans un état normal, parce que je suis magistrat, et c'est vrai que, bon, des affaires criminelles, j'en ai connu, j'ai été 8 mois juge d'instruction, c'est une fonction que je ne voulais pas exercer, mais enfin, bon, de temps en temps, on est obligé de faire ce qu'on ne veut pas. Donc c'est vrai que, bon, des situations un peu compliquées, un peu lourdes, moi, j'en avais vécu, mais évidemment, quand c'est à vous touche vous, c'est tout à fait différent. Et c'est là aussi qu'on comprend mieux après le rôle des avocats, hein, parce que c'est vrai qu'une personne seule, même magistrat, est absolument incapable de se défendre, puisqu'il y a l'affectif qui reprend tout le temps dessus. Et donc l'après-midi, il a fallu que je cherche ce document, que j'ai cherché d'ailleurs l'après-midi, le lendemain, que je n'ai pas trouvé. Que les autorités françaises de toutes les, j'allais dire, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, ont envoyé des représentants pour me demander de venir avec eux chercher ce document dans le bureau de mon mari, parce que les Djiboutiens avaient refusé qu'on ouvre ce bureau aux Français. Mais bien sûr, puisque la veuve voulait récupérer l'agenda, on ne pouvait pas l'empêcher. Donc on est allé chercher ce document. On ne l'a toujours pas trouvé dans son bureau. Mon mari ne laissait jamais rien à son bureau. Son bureau était toujours ouvert. Donc évidemment, on n'a rien trouvé. Et puis c'est vrai que ce document qu'on m'a demandé de chercher a tout de suite compromis les relations que je pouvais moi avoir avec les Djiboutiens, puisqu'évidemment on m'avait dit qu'il fallait pas en parler aux Djiboutiens, il fallait pas que les Djiboutiens le trouvent, que ça concernait le prévôt français, c'est-à-dire le gendarme français en Afrique, qui était responsable de la délinquance frappant les militaires. Mon mari n'était pas militaire, et il se trouve que ce prévôt a fait l'enquête concernant mon mari. Et donc, moi, j'ai un ami qui m'a appelé en me disant « Il faut que tu rentres, il faut que tu ramènes les enfants, et puis surtout, tu t'intéresses à rien et tu reviens. Bon. » C'est vrai que mon souci, à ce moment-là, ça a été de revenir en France. Ma famille a été avertie de ne pas venir. Avertie, et puis on leur a dit qu'ils n'avaient pas à se rendre à Djibouti. Mon frère, notamment, avait fait une démarche au ministère de la Coopération. C'est-à-dire qu'on a voulu me laisser seule. Et pouvoir faire avec moi tout ce que les Français voulaient faire, hein. Mais ça, je n'en avais pas conscience, absolument pas. Vous savez, quand on est à l'étranger, on réagit par rapport à son pays. C'est-à-dire que, bon, on vous demande quelque chose pour votre pays, ben vous le faites, hein. C'est peut-être idiot, mais c'est comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai réagi. Le bon petit Français, le bon petit soldat, et oui, il y va, même quand c'est difficile. Et puis il y a eu le retour, et puis il y a eu tous ces non-dits, puisque avant que je parte, on m'avait promis qu'il y aurait une autopsie. On m'avait dit justement qu'il y a, compte tenu des attentats de l'été 95 et des fonctions de mon mari, il était bien évident qu'il y aurait une autopsie. Et donc il fallait que le corps reste là, évidemment, pour que cet examen soit réalisé, et que moi, il valait mieux que je m'en aille. Bon. Donc je suis rentrée en France, sans mon mari, avec mes deux enfants. Et puis là, c'est vrai que cette attente de 3 semaines de ce corps a été épouvantable, d'autant qu'à partir du moment où j'ai remis les pieds en France, je n'arrivais plus jamais à avoir d'informations sur ce qui se passait à Djibouti. C'est-à-dire que quand je demandais « mais quel est le médecin qui a fait l'examen du corps ? Quel est le médecin qui a fait l'autopsie ? Qui a été désigné ? Quand est-ce que ça a eu lieu ? Où est-ce que c'était ?» Là, les amis entre guillemets, c'est-à-dire les gens que nous fréquentions à Djibouti, essentiellement les Français, effectivement, parce que les Djiboutiens, compte tenu de ce document qu'on m'avait demandé de chercher, j'étais complètement... J'en avais pas parlé, j'avais pas parlé de l'argent, parce qu'on m'avait dit que si je parlais de l'argent, je le retrouverais pas. Et puis, de toute façon, cet argent, je savais qu'il était à nous, puisque c'était un découvert que j'allais retrouver sur le groupe. Donc, je veux dire, ça n'intéressait personne, et si les Djiboutiens voulaient savoir ce que mon mari avait fait, il suffisait qu'ils se rendent à la banque. Donc, je n'avais rien de plus à leur dire là-dessus. Et donc, c'est vrai que ces 3 semaines ont été très difficiles. Et puis, quand vous êtes chez vous et que vous êtes face à sa mère, que vous êtes face à ses amis, que vous êtes face à... Ben, vous expliquez, vous essayez d'expliquer, et puis vous comprenez que vous n'expliquez pas grand-chose, parce qu'il n'y a rien à expliquer. On vous a rien dit. Et puis, c'est vrai que je n'avais absolument aucune idée d'un quelconque mobile au suicide de mon mari, hein. La seule chose que je savais et que je pensais, c'est que vraisemblablement, il y avait dû y avoir quelque chose dans ses fonctions qui n'allait pas, compte tenu de la conversation qu'on avait eue la veille au soir. Alors voilà, et puis le corps est rentré, et à ce moment-là, il y a encore d'autres amis qui sont venus, et puis une discussion avec mes parents qui m'ont dit « mais tu ne sais absolument rien, on ne t'a redonné aucun document médical ». Et mon père notamment, qui n'a jamais cru un seul instant au suicide de mon mari, et qui m'a dit « il faut absolument faire quelque chose ». Et alors c'est là que j'ai découvert les dysfonctionnements d'un monde judiciaire que je croyais connaître, puisque ça faisait quand même un certain nombre d'années que j'étais magistrat. J'étais magistrat depuis 84, 11 ans. Et alors là, je suis allée voir le procureur de Toulouse, qui a été très habile d'ailleurs, puisque moi je pensais qu'il allait faire une autopsie tout de suite, parce que le parquet a la possibilité, dans le cadre des recherches des causes de la mort, de faire une autopsie sous son autorité, et le procureur, pour me donner confiance, m'a tout de suite dit « non, pas du tout, moi je vais saisir un juge d'instruction, il est hors de question que ce soit un magistrat du parquet qui s'occupe de ça ». Ce qui m'a complètement rassurée, parce que je me suis dit, le juge d'instruction, c'est un magistrat indépendant, il n'est pas soumis aux ordres, donc a priori, il va y avoir une autopsie. Et, bon, je suis partie. Eh bien, c'est vrai que je n'ai pas été rassurée très longtemps, parce que ces démarches, je les ai faites fin novembre. Le corps de mon mari était enterré depuis le 4 novembre. Et un mois après, malheureusement, il n'y avait rien qui se passait. Et je n'avais pas intégré mes fonctions à Toulouse. Et j'avais cru comprendre, moi, qu'une autopsie, dans mes fonctions, dans tout ce que j'avais vu, c'est que l'autopsie se faisait immédiatement. Dans la journée, quand un juge d'instruction a une autopsie à faire, c'est l'ordonnance d'autopsie, elle est, c'est pré-imprimé, hein, il y a juste à signer. Alors là, ben, l'ordonnance d'autopsie, on va l'attendre 3 mois. Alors évidemment, j'ai appelé le juge d'instruction. Bon, j'étais très gênée de le faire parce que ça ne me plaisait pas de faire comme ça, mais je lui ai dit, vous savez, madame, moi on m'a appris, on m'a dit que les autopsies, il fallait les faire tout de suite. Ah oui, mais vous comprenez, dans la mesure où il est mort depuis un mois, il n'y a pas de problème, ça ne presse pas. Je veux vous entendre avant. Alors elle m'a entendu début janvier. Et puis bon, l'autopsie a eu lieu le 14 février. Et alors là, ça a été terrible parce que ben, je n'ai rien su pendant un an. C'est-à-dire que je travaillais, j'allais à la cantine, je voyais le juge d'instruction, je voyais le parquet. L'autopsie avait eu lieu, je rencontrais les gendarmes régulièrement qui venaient me demander des renseignements, des pièces que je donnais. Et puis mes collègues, pas moyen de savoir quoi que ce soit, et quand je vais demander après l'autopsie au procureur de la République que je connaissais, procureur adjoint M. Robin, quand je lui ai demandé ce qui s'était passé à l'autopsie, si on avait trouvé quelque chose, enfin je sais pas, au moins si, simplement de me dire s'il y avait eu une autopsie avant. Je me suis fait jeter. Il m'a indiqué qu'il ne savait rien, qu'il était en stage, que de toute façon, il ne pouvait rien me dire. Voilà, donc ça, je suis rentrée. Et c'est vrai qu'après, bon, ça a été très très long. Et finalement, ce sont les gendarmes, curieusement, qui ont été beaucoup plus honnêtes que les autres. Et qui, après avoir fait un peu le tour, avoir s'être renseigné au sujet de mon mari, pour savoir qui il était, etc., m'ont dit, vous savez, quand même, bon, il faudrait peut-être faire quelque chose, vous constituez partie civile, enfin bon, l'autopsie à Djibouti, il n'y en a pas eu. Enfin, c'est par le gendarme, le capitaine de gendarmerie, que j'obtenais des renseignements, alors que mes collègues, avec lesquels je mangeais à midi, ne me les donnaient pas. Alors, ça a été très très dur, hein. Et heureusement qu'à ce moment-là, je ne savais pas que dans la magistrature couraient des bruits selon lesquels j'étais folle. Parce que j'étais juge des tutelles à l'époque, hein, quand même, que je vous dise. Je m'occupais des handicapés moteurs et mentaux. Majeurs, mais bon. Et j'ai appris par des auditeurs de justice, enfin ce sont des collègues, parce que moi ils n'ont pas osé me le dire, les auditeurs de justice, ce sont des magistrats en stage. J'ai appris, donc, quelques années après, que le procureur de la République et puis d'autres magistrats avaient indiqué, donc, que Madame Borel, eh bien, quand elle, dans ses fonctions, c'était parfait, il n'y avait pas de problème, il n'y avait rien à me reprocher, c'était pas la peine de me mettre sous contrôle judiciaire et de m'empêcher d'exercer mes fonctions, mais alors, dès que je parlais du dossier de mon mari, je devenais délirante, mais c'était la douleur qui m'égarait. Alors, ces bruits étaient partis du parquet, je les ai su après. Et puis, quand j'ai vu que le procureur me mentait, notamment sur un point très précis, j'avais appris par M. Leloir, mon collègue parisien qui avait fait travailler mon mari à Djibouti sur l'attentat du Café de Paris, que j'avais reçu à la maison, à Djibouti, j'ai appris donc par ce magistrat que mon mari était accompagné d'un Français. Alors effectivement, on ne part pas suicider en compagnie, hein. Ou alors on suicide à deux, mais je veux dire, sinon, ça n'a pas de sens. Et donc j'ai testé le procureur, quand je lui ai dit que je voulais me constituer de partie civile à la fin de l'année 96, il m'a tout de suite dit, mais non, vous savez, il n'y a rien dans l'autopsie, mais il n'y a absolument rien, il n'y a pas de balle, Madame Borel, il n'y a pas de balle. Ah bon, il n'y a pas de balle. Alors, non, non. Et alors, je lui dis, mais quand même, le capitaine Auffray, là, qui était concerné par ce document, quand il fait son rapport, est-ce qu'il parle de l'argent? Est-ce qu'il parle du Français qui était avec mon mari? Mais oui, 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 bien sûr, madame, bien sûr. Bon. Je savais par les gendarmes que c'était faux. Donc, j'ai interrogé le juge d'instruction, parce que, bon, quand même, procureur de la République, bon, j'avais du mal à imaginer qu'il mentait, mais bon. Donc, j'ai demandé au juge d'instruction, et le juge d'instruction m'a dit effectivement que, bon, il n'y avait pas dans le rapport du capitaine Auffray la présence ni du Français qui accompagnait mon mari, ni aucune allusion à l'argent, ni aucune allusion au document qu'on m'avait demandé de chercher pour assurer sa propre sécurité. Alors, c'est vrai que ça faisait beaucoup, et je crois que ce qui a déclenché le fait que j'ai compris au courant de l'année 96 que c'était certainement une affaire autre que celle que j'avais connue dans la magistrature, c'est quand, en février 96, j'avais essayé de demander au ministère des Affaires étrangères, à une certaine Madame Thévenin, je crois, où était le dossier médical qu'elle devait me transmettre et que m'avait donné le procureur général de Djibouti. Le procureur général m'avait écrit en me disant « J'ai transmis tous les documents que vous me demandez au consul de France ». Bon, le consul de France m'avait dit qu'il fallait que je téléphone au ministère des Affaires étrangères. Je m'étais fait envoyer sur les roses pendant les vacances de Noël, puisqu'on m'avait dit que ça faisait 2 mois et que c'était pas la peine de me répondre, qu'il n'y avait pas d'urgence. Donc j'avais rappelé en janvier, et puis cette personne m'avait dit « Je vous rappellerai ». Bon. Puis elle m'avait pas rappelé, donc 3 semaines après, je la rappelle. Et là, pour la première fois, je vais entendre parler de secret. C'était la première fois, c'était en février 96. Et là, ce mot-là, avec tous les non-dits, tous les refus de réponse, le dossier médical qui avait disparu, je commençais à savoir qu'il n'y avait pas eu d'autopsie, parce que les gendarmes, bon, ils répondaient à mes questions quand même. Et je trouvais ça de plus en plus curieux. Et puis, à la fin de l'année, pour avoir accès au dossier normalement, sans que le procureur me mette sur un coin de son bureau, en catimini, je me suis constituée partie civile. Et bien là, les dysfonctionnements vont être encore plus grands, puisque à partir du moment où je vais demander à ce qu'on reçoive ma constitution de partie civile, celle-ci ne sera reçue que 4 mois après, en raison de l'article d'Alexandrine Bouillet dans le Figaro. Et après, alors ça va être crescendo, c'est-à-dire que quand je vais décider de monter une association des victimes de crimes à l'étranger, je vais me faire convoquer par mon président qui va me sommer d'arrêter cette association. Qui va me dire, mais le dossier va partir à Paris, parce que bon, on avait demandé à ce que ce soit un juge antiterroriste qui suive ce dossier, puisqu'on savait que mon mari était intervenu dans l'attentat du Café de Paris. Mais à l'époque, je n'imaginais pas qu'on puisse le nier, puisque bon, j'avais découvert des documents relatifs à ça dans ces dossiers personnels. J'ai jamais pensé qu'on puisse nier l'intervention de mon mari dans l'attentat du Café de Paris. Et donc, on va avoir beaucoup de mal à faire partir le dossier de Toulouse. Et ensuite, on va avoir alors la crème des magistrats parisiens, parce que c'est comme ça qu'on m'a présenté Madame Morachini. C'est-à-dire un magistrat d'une très grande valeur, d'un grand professionnalisme, qui allait au bout de ses dossiers, qui était une femme avec une forte personnalité, pas forcément très sympathique, m'a-t-on dit, mais vous verrez, c'est un excellent professionnel et vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, à ce moment-là, je suis tombée malade. Et donc, Madame Morachini m'a convoquée une première fois. Alors, elle s'est adjointe Monsieur Leloir. Alors là, autre dysfonctionnement énorme. Mais là aussi, je n'étais que partie civile dans le dossier. Quand on m'a indiqué que Mme Morachini avait demandé à M. Leloir de venir dans ce dossier, j'ai appelé un collègue qui était président d'une chambre d'instruction à Grenoble à l'époque, en lui disant « Mais c'est totalement impossible puisqu'il nous connaissait. Il va pas, le jour où on arrêtera les auteurs, ils vont dire « Mais il y a une nullité parce que M. Leloir a instruit le dossier alors qu'il connaissait votre mari et que votre mari a travaillé avec lui sur l'attentat du Café de Paris. » Bon. C'est d'ailleurs très pratique maintenant, puisqu'il y a un des auteurs de l'attentat du Café de Paris qui est soupçonné dans l'assassinat de mon mari. Donc je ne sais pas ce qu'il pourra faire tomber dans le cadre de ce dossier, mais bon, c'est une question qu'on peut se poser. Alors là, on m'a répondu, non, non, pas du tout. De toute façon, tu peux pas choisir tes juges. Une partie civile n'a pas à choisir ses juges. Elle t'a imposé le Loir. C'est peut-être pas mauvais, puisqu'il connaît Djibouti, ça ira plus vite. Bon, et c'est un peu comme ça qu'ils m'ont reçu. Vous inquiétez pas, on va y aller. Moi, je connais bien Djibouti, et vous allez voir ce que vous allez voir. Mais surtout, ne venez pas, parce que, bon, ça pourrait mettre de mauvaise humeur les autorités, tandis que nous, il y aura pas de problème, vous verrez. Bon, j'étais malade à l'époque, je ne me suis pas battue pour y aller, ça c'est vrai. Et donc j'ai attendu, puisqu'ils ont été saisis donc à l'automne 97, j'ai attendu 98, je voyais 98 passer, je savais qu'il y avait des élections présidentielles en 99, alors je leur avais bien expliqué que, évidemment, s'ils voulaient avoir des témoignages, il valait mieux qu'ils y aillent avant les élections. Bon. Mais bon, il n'y avait rien qui se passait, et bien ils y sont allés pendant la campagne électorale, février 99. Ils sont partis à Djibouti. Et alors, entre-temps, j'avais eu les résultats de l'enquête de la brigade criminelle de Paris, section antiterroriste. Excusez du peu, on n'avait pas voulu de magistrat antiterroriste, mais quand même, au cas où, on avait quand même saisi la brigade antiterroriste de la police. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les policiers en savaient plus sur le dossier que les juges d'instruction. Forcément. Parce que des policiers qui connaissent les réseaux terroristes, qui connaissent les fichiers terroristes, eux, ils les avaient, ces fichiers, mais les juges d'instruction, pas du tout. Bon, mais ça, à l'époque, je ne m'en suis pas rendu compte. Et quand j'ai vu l'enquête de la brigade criminelle, la première, alors là, je suis tombée d'un cinquième. C'est-à-dire qu'on a présenté mon mari, on a entendu des gens qui ne le connaissaient pas. C'était pratique. Alors, on a commencé par l'ami du capitaine Auffray, celui qui, soi-disant, avait fait ce rapport qu'on m'avait demandé de chercher. Et cet ami du capitaine Auffray, eh bien, il n'y est pas allé par quatre chemins. Il a expliqué que mon mari était pédophile et que c'était pour ça qu'il s'était suicidé. Alors, évidemment, grande joie sans doute chez les juges d'instruction qui avaient trouvé le mobile. Et donc, les enquêteurs de la brigade criminelle sont allés à fond dans cette piste-là. Et puis donc, quand même, cet assistant social qui avait dit ça de mon mari, évidemment, il n'avait jamais rencontré mon mari. Alors, il fallait quand même savoir d'où il tenait ces informations. Ben, de sa collègue, assistante sociale des prises des armées, comme lui. Et donc, ils sont allés entendre l'assistante sociale de l'armée. Et là, que leur a dit l'assistante sociale, elle a dit non. Mais il s'est toujours trompé, c'était pas M. Borrell dont on parlait, c'était M. Sapkalas, le conseiller à la présidence, le plus proche collaborateur de mon mari. Oui, c'est de celui-là dont on disait qu'il était pédophile, mais pas de M. Borrell, jamais. Et bien n'empêche que la photo qu'on a montrée dans les rues à Djibouti en février 99, quand on se rend pour la première premier transport, parce qu'il n'y a pas eu de reconstitution à ce moment-là, eh bien, c'est la photo de mon mari qu'on montre, c'est pas celle de M. Sapkas, hein. Et puis, on va se payer le curé de Djibouti aussi, parce que, bon, on avait appris qu'il avait des mœurs un peu spéciales. Bon, donc, on est allé l'entendre, on l'a cuisiné. Bon, mais on n'a pas réussi, on a tout fait, hein. Ça, je pense qu'on a tout fait, mais on n'a pas réussi à trouver un gamin qui accuse mon mari de quoi que ce soit. Mais c'est bien la photo de mon mari qu'on a montrée. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu ce dossier, j'ai très très mal réagi et j'ai dit au juge d'instruction, mais enfin vous vous rendez compte de ce qu'il y a dans cette enquête? Ah oui, non mais ça, vous comprenez, c'est la brigade criminelle, nous on n'y est pour rien, alors a priori un magistrat dirige l'enquête. Bon, ça je le sais, eux aussi, donc je savais qu'ils me répondaient n'importe quoi. Et ils me disent, non, mais de toute façon, bon, ça c'est la brigade criminelle, mais ne vous inquiétez pas, on va aller à Djibouti. Donc ils vont à Djibouti, alors là, ils vont revenir en disant à mes avocats, rien qu'en allant sur place, on sait que c'est un suicide. Alors, Maître Maurice, d'ailleurs vous avez vu la reconstitution qu'ils ont faite, vous avez tous compris qu'on pouvait, couvert d'essence, parce que le bidon était en haut, descendre la pique de 5 mètres dans les gros rochers que vous avez vus. Et puis ensuite, parce que ça c'est leur seconde version, parce que la première elle n'était pas possible, hein, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il soit mis le feu en haut, et qu'il ait descendu la pique en brûlant, puis après 17 mètres plus loin. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Ben non, ça c'est une erreur, ils n'ont pas très bien compris, les gens qui étaient venus, ils étaient tous incompétents, mais nous on est les meilleurs, alors on dit ce que dit Madame Borrell, effectivement que cette version-là c'est pas possible, mais on va tout de suite en inventer une seconde. Alors que Monsieur Leloir avait eu un dossier à Djibouti, où pendant 3 ans, on lui avait fait poursuivre des gens qui n'y étaient pour rien dans l'attentat du Café de Paris. Ils ont incarcéré 80 personnes à Djibouti, et Dieu sait que c'est pas amusant d'être incarcéré à Djibouti, qui n'avaient rien fait, alors que les autorités, les plus hautes autorités djiboutiennes savaient très bien qui étaient les auteurs de l'attentat du Café de Paris. Eh bien, bien que M. Leloir ait connu ces manipulations de dossiers pénaux, il arrive sur les lieux, il voit que la version qu'on m'a donnée est complètement farfelue, et immédiatement avec Mme Morachini, vous voyez l'honnêteté des magistrats, immédiatement avec Mme Morachini, ils inventent la seconde version. Donc il se met l'essence en haut, puisque le bidon est en haut, et ensuite il descend la pique dans la nuit noire, sans se faire mal, et il se met le feu en bas des 5 mètres. Et puis après, il fait ses 17 mètres en courant, sous la douleur. Bon. Je vais vous dire, c'est vrai que ça paraît complètement délirant, mais ça paraît d'autant plus délirant que vous avez vu les images. Mais pour quelqu'un qui n'est pas allé sur les lieux, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, quand ils sont rentrés, eh bien, ils nous ont dit, mais non, c'est un suicide, il n'y a pas de problème, etc. Donc là, nous sommes au mois de mai 99. Et puis, seconde enquête de la brigade criminelle, elle est vraiment remarquable, cette brigade criminelle, mais je vous en dirai encore un mot à la fin, dans les derniers dysfonctionnements. Elle va faire une enquête, cette brigade criminelle, pour rechercher un autre mobile. Bon, ils n'ont pas réussi sur la pédophilie, alors ils vont chercher la maîtresse, l'enfant adultérine, et puis... alors la maîtresse, eh bien, effectivement, mon mari était venu en stage de formation en 95 à Paris, en août, et donc il était allé à l'hôtel, et il était resté une semaine, et pendant 4 jours, il y avait une personne avec lui. Et puis il avait acheté une superbe bague. Donc ils sont allés demander aux agences bancaires les vidéocassettes, là où mon mari avait retiré de l'argent, pour savoir avec qui il était, quelle était cette femme qui était avec lui. Alors cette femme, c'était moi. Et la bague, c'était nos 10 ans de mariage. Voilà. Mais comme ils ne me l'ont pas demandé, ils ont cherché. Bon, puis ils n'ont rien trouvé. Alors après, ils sont allés entendre une ancienne amie de mon mari, qui avait eu une fille, après avoir rompu avec mon mari, et dont ils ont tout de suite soupçonné que c'était la fille de mon mari, et cette femme leur a donné le nom du père, et qui n'était pas mon mari. Et ben, ils ont continué, c'est-à-dire qu'ils ont conclu leur enquête en disant qu'il faudrait pousser et faire des auditions intimistes de la famille de M. Borel pour trouver ce qu'il y avait là-dessous. Voilà. Alors ça, c'était fin 99, et puis fin 99, eh bien, c'est vrai que je fais un rapport au juge d'instruction en expliquant toutes les âneries qui sont dans l'enquête de la brigade criminelle. Et les âneries étaient toutes dans le même sens, c'est-à-dire que c'était toujours pour aller dans le sens du suicide, et les éléments qu'ils oubliaient, ou pour lesquels ils se trompaient, ou pour lesquels ils avaient une interprétation qui était complètement farfelue. Enfin, que je vous dise quand même, ce qui m'a toujours choqué le plus dans leurs interprétations, c'était au sujet de l'argent. Ces fameux 50 000 francs français, en francs djiboutiens, je sais pas combien ça devait à l'époque, et que j'avais retrouvé dans sa sacoche. Ah, sa sacoche étant placée à l'endroit habituel où il la mettait, hein, pas du tout en exposition, avec l'enveloppe, avec mon nom dessus, pas du tout. Hein. Mon mari, s'il était rentré le soir, j'aurais jamais rien su, hein, ni le découvert, ni rien du tout. Bon. Donc, ils sont allés expliquer que l'argent djiboutien, c'était pour moi. Alors, vous voyez, l'intelligence des policiers, quand même. C'était un découvert bancaire, quel cadeau. Et en plus, mon mari utilise une forme passive, l'argent n'a pas été dépensé, et alors mon mari, c'était un cadeau, mais c'était en franc djiboutien quand même, vous imaginez pour moi le cadeau que c'était, hein. Alors on avait un compte joint, des francs djiboutiens, c'est pas franchement négociable en France, il a fallu d'ailleurs que je me débrouille pour me faire rapatrier cet argent, parce qu'il fallait pas en parler aux djiboutiens, donc il fallait pas qu'il apparaisse dans la procédure. Donc je veux dire, c'était vraiment pas un avantage pour moi, cet argent. Eh bien, pour la brigade criminelle, c'était clair que c'était pour permettre mon rapatriement sans problème. Alors, on paye à Djibouti avec la carte bleue française sans aucun problème, hein, je vous rassure. Voilà, donc pour vous montrer à quel point, quand on veut bâtir un dossier, quand on veut, on utilise tous les moyens. Et c'est vrai que, j'allais dire, la famille de la victime, là-dedans, elle comprend plus, quoi, hein, parce que moi, j'avais jamais vu les policiers faire ça dans un dossier, hein, jamais. Jamais, jamais, jamais. J'avais jamais vu mes collègues dire d'une collègue qui était en fonction, elle est complètement folle. Bon, évidemment, elle continue ses fonctions, mais non, ça, j'avais pas eu non plus. C'est des comportements que je ne connaissais pas. Et puis, le clou, c'est qu'au moment donc, où j'ai cette communication de cette enquête, mon avocat m'appelle en me disant, eh bien, nous avons un avocat qui m'a appelé de Bruxelles. Il y a une personne qui dit qu'il y a des choses à dire sur l'assassinat de votre mari. Et alors, à ce moment-là, je lui dis, il faut donner ses coordonnées au juge d'instruction pour qu'elle l'entende, parce que je sais très bien qu'un témoin, il ne faut surtout pas aller l'entendre soi-même. Hein. Une partie, elle est forcément avec un intérêt, elle est forcément partiale, donc il ne faut surtout pas le faire. Et alors là-dessus, j'entends mon avocat qui me dit, oui, mais elle a refusé de l'entendre. Alors, ça non plus, j'avais encore jamais vu. Mais bon, ils avaient décidé de clôturer le dossier à ce moment-là. Donc, effectivement, il fallait surtout pas aller entendre quelqu'un qui parlait d'assassinat. Et donc, effectivement, d'ailleurs, elle le reconnaîtra, Madame Morachini. Elle dira... Alors, on a eu plusieurs explications, mais enfin, la dernière en date, si je puis m'exprimer ainsi, c'est celle qui dit que... Eh bien, il avait demandé à faire cette déposition sous couvert d'anonymat et qu'en France, cette manière de déposer n'était pas possible. Alors, c'est exact. Juridiquement, à l'époque, on ne pouvait pas entendre quelqu'un de façon anonyme. Sauf que, pourquoi il voulait l'anonymat? Parce qu'il voulait être protégé. Alors, quand on a un témoin essentiel dans une affaire criminelle, eh bien, et qui demande à être protégé, ben on le protège. Mais on ne dit pas qu'on ne peut pas l'entendre. Alors... Évidemment, elle ne l'a pas entendu, donc c'est vrai que je suis allée entendre M. Al-Moumekani à Bruxelles, c'était en décembre, et que quand je suis partie, mon fils m'a dit « Tu sais, maman, papa est mort, c'est pas la peine que le témoin meure aussi. » Et c'est vrai que c'est des choses dont je suis persuadée qu'elles peuvent arriver, parce que c'est vrai que Djibouti n'est quand même pas une démocratie, à mon avis. Alors on y est allé et puis c'est vrai qu'on a pensé que c'était peut-être la seule solution de le protéger, c'était peut-être de rendre public son témoignage. Il nous a reçus chez son avocat, il a beaucoup hésité à dire les choses, il ne voulait pas parler du français, pas prononcer son nom, il avait très peur. Et puis, il a réfléchi, puisque je pense que son témoignage n'est sorti qu'en janvier, à la mi-janvier ou fin janvier, je ne sais pas. Et alors là, nous allons avoir des juges d'instruction qui vont chercher à démolir ce témoignage. Alors, ils vont l'entendre, ce qui entraînera de la part de M. Al-Moumekani un dépôt de plainte pour les pressions qu'il avait subies, qui sera classé par le parquet de Bruxelles. Mais qu'elle mérite d'exister. Et puis, tout le long, alors ils vont décider, donc ils vont l'entendre en février 2000, et donc ils vont décider de repartir à Djibouti. Et alors qu'ils nous avaient promis, que le procureur de Paris nous avait promis que nous irions à Djibouti faire la reconstitution, eh bien nous allons apprendre par la presse que les juges d'instruction sont partis avec le parquet de Paris, mais sans nous. C'est par la presse, mais nous le saurons. Ils seront déjà partis quand on l'apprendra. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont chercher jusqu'à la petite enfance de M. Al-Moumekani, jusqu'à l'institutrice de l'école, alors je ne sais plus si c'est maternelle ou primaire, pour essayer de nous expliquer que c'est un type qui est complètement farfelu, qui est un type violent. Mais alors, c'est dommage, ils n'ont pas de condamnation. Parce que c'est terrible, ça, dans le dossier de mon mari, c'est que les témoins dont on dit qu'ils ne sont pas crédibles, eux, ils ne sont pas condamnés. Tandis que les auteurs présumés, eux, ils ont déjà été condamnés pour des attentats anti-français, quand même. Alors, les juges d'instruction vont revenir de ce transport. Évidemment, ça se passera très mal, puisque Madame Morachini va faire une confrontation avec les experts, Madame Lecomte, directrice de l'IML, et que là, on va avoir un gros incident, parce que Maître Decaune va dire à Madame Lecomte, « Mais attendez, Madame, mais si on imagine qu'on a menacé M. Borrell avec une arme, on peut très bien penser qu'on l'a amené là où on l'a trouvé, qu'on l'a brûlé et tué à cet endroit-là, et qu'on l'a conduit là. » Ah non, non, on ne peut pas descendre. Ah ben si, puisque vous nous dites qu'il l'a descendu tout seul. Donc, on ne pouvait pas le porter. Alors, on ne pouvait pas porter son corps, mais Bon, alors il faut quand même que vous sachiez que des deux côtés de la pique, on peut très bien descendre. Qu'en revanche, la pente, effectivement, c'est des espèces d'éboulis volcaniques. Alors dès qu'on marche, ça dégringole, hein, ça c'est clair. Mais je veux dire, ils nous avaient caché que des deux côtés, on pouvait descendre, j'allais dire, on pouvait très bien contourner la pique. Sauf que pour la version officielle, ils étaient obligés de dire qu'il était passé là, puisqu'il y avait tous les petits objets, le briquet, la chaussure, le machin qui avait été posé. C'était la mise en scène qui leur était imposée. Vous savez, comme les figures imposées du patinage artistique, il fallait passer là, donc ils étaient obligés de passer par là, quoi. Alors évidemment, c'était pas très cohérent, hein, mais enfin, c'était comme ça. Alors c'est vrai que ça va très mal se passer, on va demander leur dessaisissement et on va l'obtenir. Et on va l'obtenir sur le fait qu'ils ne nous ont pas emmenés, puisque en France, quand on fait une reconstitution, effectivement, on emmène toujours les parties civiles. Alors ils seront dessaisis et on va désigner M. Parlos, qui va faire une enquête tout en croyant dur comme fer au départ, me semble-t-il, que c'était un suicide. Et en fait, le dossier va complètement changer quand nous irons sur les lieux, parce qu'effectivement, je ne veux pas reprendre l'expression de Mme Morakini, rien que d'aller sur des lieux, on sait que c'est un assassinat, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire que le corps de mon mari ne pouvait pas arriver là tout seul s'il s'était suicidé. Alors, effectivement, sur les lieux, M. Parlos va convenir avec les experts, puisqu'il y avait les trois experts qui étaient avec nous. Et au retour du transport sur les lieux, le jour même du transport, il va me demander à me parler. Il va me remercier de ma dignité. Alors, il faut imaginer ce qu'on a pu lui dire sur moi pour qu'il puisse me dire une chose pareille. Et puis, il me dit, on va faire une autopsie parce qu'on n'y comprend rien. Et puis, dites-moi s'il y a des choses que j'ai oublié de chercher. Dans ma commission rogatoire, j'ai dit oui, j'avais oublié qu'il y a certainement un dossier personnel de mon mari à la mission de coopération à Djibouti, et c'est comme ça qu'on apprendra que mon mari a été nommé en raison de la cohabitation de M. Mitterrand avec M. Balladur, M. Mitterrand ayant un candidat, M. Balladur un autre, et donc on a envoyé mon mari parce qu'il n'était pas marqué politiquement. Et je pense d'ailleurs qu'il en est mort. Donc 2002, nouvelle autopsie, on recherche le dossier médical, mais alors là, dossier médical, c'était quand même assez amusant. On est quand même allé à l'hôpital militaire français, l'hôpital Bouffard, faire ouvrir le coffre-fort avec le juge d'instruction djiboutien. C'était quand même une première à Djibouti, hein. Et évidemment, le coffre-fort était vide, hein. Bon, nous n'avons pas retrouvé les radios complètes du corps de mon mari, et pour cause, puisque quand l'autopsie sera faite, on découvrira qu'il avait un trou au crâne et qu'il avait une fracture de défense au bras gauche. Évidemment, depuis le début, depuis la première radio à l'hôpital militaire Bouffard, les autorités françaises savaient que mon mari avait été assassiné. Et c'est vrai que quand on va avoir les premiers rapports de la seconde autopsie, on va comprendre pourquoi on a fait disparaître le dossier médical à Djibouti. Alors les dysfonctionnements, c'est vrai qu'il y en a quand même eu un nombre incalculable, et puis qu'ils ont continué et qu'ils perdurent. Alors pourquoi je dis qu'ils ont continué ? Parce qu'après on s'est heurté au secret défense, puisque quand Madame Clément est arrivée, puisque Monsieur Parlos est parti, donc Madame Clément, c'est le cinquième juge d'instruction, hein, quand même. Madame Clément est arrivée, donc elle a exigé d'avoir l'attentat du Café de Paris en copie au dossier, ce qui est quand même très instructif. Et puis, elle a commencé à demander des déclassifications sur des points particuliers du dossier. Et puis, on a eu, alors là. Des choses qui ne s'étaient jamais produites depuis le début de la création de la commission du secret défense, puisque donc cette commission a été instituée en 1998 par le gouvernement de M. Jospin. Elle est là pour donner un avis sur des documents classifiés secret défense qui concernent un dossier pénal pour lequel il y a une instruction en cours. Et depuis 1998, les avis ont toujours été suivis par des ministres. Il n'y a jamais eu d'exception. Il faut dire quand même que la commission a une conception très, très large du secret défense. Hein. Dans le dossier Borel, la commission a dû être saisie en novembre 2003. Et donc moi j'attendais régulièrement des nouvelles, évidemment j'en avais pas. Je regardais sur le journal officiel, puisque ça devait être publié au journal officiel tous les matins à mon bureau, et puis je n'en avais pas. Puis j'ai vu qu'il y avait une formation sur le secret défense, alors j'ai voulu y aller. Et puis là, j'ai entendu le président se plaindre des politiques qui refusaient, qui, pour dans un de ses derniers dossiers, avaient enjoint à la commission de donner un avis défavorable. Et puis, toujours dans un de ses derniers dossiers, il n'arrivait pas à faire publier l'avis. Évidemment, je ne savais pas que c'était le mien. Enfin, celui de mon mari. J'avais dit en arrivant à la formation que je venais pas pour mes fonctions, parce que je suis juge d'instance, mais que je venais uniquement pour savoir un peu plus sur le secret défense. Bon, ça avait fait un peu un froid parmi mes collègues, mais bon. Et donc, alors là, j'avais quand même appris qu'il y a longtemps que l'avis avait dû être donné. Et donc, je suis allée voir mon avocat, je lui ai dit non, là maintenant, il faut agir parce que, bon, alors, il me dit oui, mais on est en période électorale, il vaut mieux, bon, bref. Et puis, il téléphone quand même à Monsieur Lelong et il apprend que, bon, ça se passe très mal, etc. Et alors, bon, à la suite de ça, on fait la conférence de presse, l'avis sera publié, mais bon, on découvrira que c'était pas les bons documents. Après, il y aura une seconde déclassification au ministère de la Défense, mais ça ne concernera toujours que les documents du gouvernement de Monsieur Jospin, c'est-à-dire les rapports sur les rapports qui avaient été faits au conseiller justice de Monsieur Jospin. Mais il n'y aura aucun document, ni de 95, ni de 96, ni même de la libération des auteurs de l'attentat du Café de Paris en novembre 94. C'est-à-dire que ils ont zappé tout le temps où mon mari a été à Djibouti, avril 94, jusqu'en fin 96. Alors, ensuite, on a eu la déclassification du ministère de l'Intérieur. Alors là, ça de documents et trois feuillets déclassifiés. Et alors là, très ambigu, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le listing des dates des documents. Puisque quand la commission fait un travail d'instruction, qu'elle va chercher les documents, elle ne fait pas l'inventaire des documents qu'elle a vus dans l'avis qu'elle rend. Elle rend un avis en disant « je suis d'accord pour une déclassification partielle de trois feuillets, numéro un tel, un tel, un tel ». Mais les autres, on n'en a pas du tout. Alors maintenant, eh bien, je dis que les difficultés continuent parce que, évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est les autres documents. Alors maintenant, on va avoir, j'espère, une expertise relative aux produits chimiques. Alors c'est un document que j'ai trouvé non pas en septembre 2004, qui n'a pas été remis en septembre 2004 au juge d'instruction, comme dit Le Monde, sur 10 lignes qu'il a fait pour le 10e anniversaire de mon mari, mais c'est un document qui a été remis comme les autres, quand je les ai trouvés, en courant 96. Et ce document concerne de l'uranium enrichi, et c'est là où j'ai découvert que l'uranium enrichi faisait évidemment partie de ces dossiers, de ces documents dont on ne parle pas. Puisque en 2003, on a décidé de classifier secret défense tout ce qui concerne l'uranium enrichi. Alors là, ils sont très gênés, et je vais terminer par là. Très gênés pourquoi ? Parce que ce document, il fait une liste de produits chimiques qui sont les trois de l'uranium enrichi. Et non seulement il y a ces produits avec leur pourcentage, alors moi je n'y connais rien, je ne suis pas chimiste, mais il y a également les sociétés le commercialisant. Et ces sociétés, elles se trouvent en Europe. Une en Angleterre, une en Allemagne et une filiale à Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois. Voilà. Et donc, eh bien, quand la brigade criminelle de Paris, dans sa grande compétence, a été saisie de la demande d'enquête l'année dernière, eh bien, elle n'a rien fait d'autre que transmettre la totalité de la demande d'enquête directement par e-mail à ces différentes entreprises. Voilà. C'est ce que j'appelle du sabotage. Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, ce que je souhaite maintenant, c'est qu'on déclassifie les autres documents et qu'on demande la déclassification, y compris sur ces produits qui sont donnés. Et pour le 10e anniversaire, le dernier avatar en date, c'était que la veille de la conférence de presse qu'on devait faire pour le 10e anniversaire, eh bien, le parquet de Paris avait audiencé une plainte contre le général Zakaria, suppôt du régime de Monsieur Guellet, pour le 18 octobre 2005, alors que la plainte était de juillet 2004. Donc c'est vrai que ça fait supporter aussi le poids de la division des magistrats et qu'elle existe toujours, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette part de la magistrature qui, bon, le parquet était présent pour le 10e anniversaire de l'amendement Marie à l'audition devant le juge d'instruction, mais c'est aussi le parquet qui a audiencé le dossier contre M. Charles.